De retour pour Bourse Live, les rencontres pour cette première journée de ce salon digital de l'investisseur et cette première conférence, ce premier débat, cette première table ronde de l'après-midi, investir au féminin. Bah oui, parce qu'on avait envie de savoir s'il y avait une différence dans la façon d'investir quand on est un homme, une femme, savoir aussi s'il y avait des freins, des points bloquants qui empêchaient les femmes de s'emparer pleinement des questions d'argent et de patrimoine, que ce soit au niveau de l'éducation financière du couple ou même de l'entreprise, et savoir surtout comment il était possible de surmonter ses freins pour passer à l'action et prendre en main ses finances, son patrimoine. Alors, pendant cette heure de débat, nous allons poser justement l'enjeu grâce notamment au résultat d'une enquête, mais pas que. Et puis, il y a aussi l'idée et d'aboutir à des pistes concrètes de réflexion. Et pour répondre cash et sans langue de bois sur le sujet, je suis entouré d'expertes. Margaret Johnson-Clark, Global Chief Diversity Equity and Inclusion Officer chez L'Oréal Group. Bonjour Margaret.
Bonjour.
Sybille Lemaire, directrice exécutive du groupe Bayard et fondatrice de Vive Média. Bonjour Sybille. Et à ma gauche, Estelle Cast, directrice générale France, Belgique et Luxembourg chez BlackRock. Bonjour Estelle.
Bonjour Laurent.
Et Alix Doranty, responsable d'équipe de banquiers privés chez Odo BHF et cofondatrice de Ladies Bank. Bonjour Alix.
Bonjour Laurent.
Alors, j'avais envie de commencer avec vous, Sybille, parce que effectivement, je l'ai dit, il y a cette création, ce média qui est assez récent, Vive Média, et avec cette ambition, cet objectif, c'était explorer le rapport des femmes au travail, à l'argent, à l'économie, et donner l'envie de se mettre en action. S'il y a objectif, c'est qu'il y a constat, j'ai envie de dire, le constat que c'était encore trop insuffisant, que les femmes ne s'intéressaient pas, pour les raisons qu'on va voir, à leur patrimoine, à leur économie, à leurs finances.
Oui. Alors bonjour, merci, je suis ravie d'être là. Je remercie aussi Boursorama qui a participé à cette étude dont nous allons parler. Mmh. Vive Média, ça a été créé il y a peu de temps, hein, ça a été créé le 8 mars, le jour de la journée de la femme, et c'est né d'un constat. Alors d'une part, peut-être que vous nous rappelez que la place des femmes bouge, elle se renforce et on peut s'en féliciter. Malgré tout, on a une conviction, c'est que l'argent reste un tabou à lever. Et donc, on ne parlera pas franchement d'argent. Je vois difficilement comment est-ce que nous allons arriver à une égalité. Donc, c'est vrai que les femmes, en France, encore aujourd'hui, restent fragiles financièrement. Et elles ont un risque aigu de rester précaires financièrement. Alors, les raisons qui y concourent, peut-être rappelons ça avant de rentrer directement dans l'étude, elles sont multiples. Je n'en évoquais que certaines. Il y a des choix professionnels qui ont été faits. Donc, il y a une question d'orientation qui se pose. Il y a la question du temps partiel, dont on reparlera certainement, mais qui précarise beaucoup financièrement les femmes.
Plus de temps partiel pour les femmes que pour les hommes.
Ah oui, beaucoup plus. Elle surpondère à 90%. Donc, on va dire que la ratio est assez évident. Loin de moi l'idée de penser ce que doivent faire les femmes, simplement il faut qu'elles en connaissent les conséquences. On entend trop encore aujourd'hui dans les entreprises, je vais prendre mon temps partiel, ça me coûtera moins cher de ne pas travailler le mercredi. Oui sur un court terme, non et 10 fois non sur un long terme, puisque on verra les conséquences peuvent être importantes. Rappelons quand même qu'on a une très forte augmentation des familles monoparentales aujourd'hui en France. Et puis il y a au moment du passage à la retraite, c'est vrai qu'on rappelle souvent les inégalités, je pense qu'on le fera encore aujourd'hui, au niveau des salaires dans l'entreprise. Le chiffre que l'on connaît moins et que j'aime à rappeler, c'est qu'au moment du passage à la retraite, c'est 39 points d'écart. Donc on peut voir que
c'est
la
liste.
Oui, 32 pensions de reversion inclus, si on veut être exact. Donc nous, on a essayé de prendre le sujet, j'allais dire, dans un collectif d'hommes et de femmes et d'adresser de façon extrêmement claire, fluide, limpide, immédiate, cette question d'argent, comment s'en saisir. Et avant toute chose, il nous a semblé important effectivement de faire une étude.
Un état des lieux,
qu'on connaissait quand même un peu intuitivement, et puis on n'est pas les premiers à discuter de ces sujets-là. Il y a eu beaucoup d'initiatives, et j'en vois déjà aussi beaucoup autour de la table, qui avaient initié ça. Nous, on s'est attelé en fait à rendre ça le plus, disponible, lisible, évident, pour le grand public. Voilà, c'est pour tous et toutes. Donc l'étude, qu'est-ce qui montre? Je parlerai vraiment en synthèse rapidement.
Les grands points,
c'est que elles gèrent les femmes.
Elles gèrent très bien leur argent, en fait. Elles savent faire des budgets, elles savent gérer leur budget, sauf avec un grand S, elles le font dans la sphère domestique. En clair, c'est un syndrome, ce n'est pas moi qui l'ai nommé, puis je commence un peu, voilà, mais c'est, je ne me souviens plus du nom, elle m'en excusera. C'est le syndrome maman PQ, papa voiture. Je suis désolée, mais ça a l'avantage. Oui, voilà, oui. C'est je dépense pour ma famille, dans ma sphère domestique, mais... Et là, nous avons les banquières qui prendront
le relais.
Elles ne dépensent pas, en
dans
tout cas,
elles,
dans le quotidien.
Hein,
bah, c'est maman expression. PQ, papa voiture, je ne sais pas comment dire mieux les choses.
Ouais.
En fait,
on
va toutes
le
se
foyer.
Reconnaître. Ouais. Voilà. Donc, elles regardent leur compte, mais elles investissent peu. Donc, c'est cantonné dans la sphère domestique. Et ça, c'est un problème parce que ça relève d'un enjeu d'éducation. Hein. Alors, il y a un chiffre qui n'a pas été donné dans l'étude, mais que j'ai revérifié avant d'arriver. À l'âge de 15 ans, il y a déjà 6 euros d'écart.
Dans l'argent de poche, c'est ça.
Alors,
ça, j'ai vu, c'est vrai que c'est assez incroyable.
C'est-à-dire que les filles
reçoivent en moyenne 6 euros de moins que les garçons, c'est
absolument, ce qui me fait assez souvent dire que tondre la pelouse rapporte plus d'argent que débarrasser la machine, mais c'est malheureusement vrai. Et effectivement, lorsque vous avez demandé autour de vous, tout le monde vous dit, mais non, jamais je donnerai moins d'argent. Mais si, en fait, on donne beaucoup moins d'argent aux filles, peut-être parce qu'en réclament-elles moins aussi. C'est un point.
L'art de la négociation se travaille dès le plus jeune âge. Hein,
dès le plus jeune âge. Et lorsqu'on parle d'éducation, c'est ça qui est important, parce que c'est aussi ce qu'on voit dans l'étude. Très souvent, les femmes parlent d'éducation en parlant de leurs filles. Oui. Mais ce serait pas mal d'éduquer les fils. Ça, c'est une maman de deux garçons qui parle. Mais aussi leurs conjoints. Et ça, c'est ce qu'on revoit beaucoup dans la communauté de Vive aujourd'hui qui a grossi et sur lequel on travaille beaucoup. Il y a une difficulté d'énonciation du sujet pour les femmes en famille. Et notamment vis-à-vis de leurs conjoints, parce qu'elles sont quand même assez conscientes qu'elles connaissent faiblement le patrimoine familial, ce qui est un vrai sujet. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de d'abord révéler, mais aussi mettre en action comment énoncer ces sujets pour que ça ne devienne pas une espèce de pugilat. Parce que c'est toute la chaîne de transmission, puisqu'il s'agit aussi, bien évidemment, au moment où elles reçoivent des sommes d'argent de leur famille, qu'il va falloir qu'elles adressent ces sujets-là aussi avec les parents. Donc, l'éducation des filles, oui, des garçons encore mieux,
aussi, oui.
De leurs conjoints. C'est pour ça que nous avons des hommes dans ce média, ça nous semble une urgente nécessité, et des parents. Et surtout, c'est un sujet, et j'en terminerai par là, parce que sinon je vais prendre trop de la parole, mais en fait, ça ne fait pas partie de leur équation personnelle de vie, elles ne se projettent pas. Il y a un enjeu de projection, en tout cas, elles ont une position très court-termiste de leur gestion, de leurs finances. Ce qui leur fait dire, et c'est ça qui est très malheureux, l'argent c'est une angoisse en fait.
Oui. C'est une angoisse.
C'est une contrainte, c'est une angoisse, c'est contraint. Et le terme liberté n'est évoqué que par moins de 30% d'entre elles. Et c'est trop peu un outil de liberté aujourd'hui. Comment réussir à vraiment changer cela, c'est un peu notre enjeu premier.
Une angoisse plus qu'une liberté, Estelle. Je sais que chez BlackRock, c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi. Je sais qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites au niveau européen. C'est des constats, Sybille, que vous partagez, que vous constatez également.
Tout à fait. Donc, on a effectivement fait ce qu'on appelle une infographie sur 2 ans. Donc, c'est un mélange d'un certain nombre d'études qui touchaient exactement au même sujet touché par Sybille sur les femmes face à l'épargne, face à leur potentielle indépendance financière, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, hein, c'est cette connaissance ou cette faible connaissance que s'intéresser au placement, s'intéresser à leur épargne, à la capacité d'échanger même au niveau du cercle familial sur leur capacité d'épargne. Et pour faire un complément à l'étude de Sybille, on a regardé aussi au niveau européen, on trouve vraiment le même style de statistiques, puisque à peu près 18% des Européennes sont réellement actives financièrement. Ça veut quand même dire que
18%,
c'est extrêmement faible.
Ah oui, c'est vrai, effectivement, les chiffres-là sont parlants.
Voilà, sont très faibles. Par contre, il y a des disparités énormes d'un pays à l'autre, notamment si on regarde l'Allemagne, il y a un tiers des femmes qui ne placent jamais d'argent. C'est un écart monstrueux.
Estelle, on parle souvent de l'Europe du Nord. Est-ce qu'elle fait figure de modèle, là aussi?
Alors, modèle, lui, notamment sur la partie épargne-retraite, parce que là, on a des pays comme la Finlande ou la Suède, où on a, au travers de nos études, hein, donc il y a un certain nombre d'études développées par l'OCDE, par JP Morgan et d'autres fournisseurs, qui ont démontré que en Finlande, en Suède, plus de 80% des femmes ont l'équivalent d'un plan épargne-retraite.
D'accord.
Et ce qui est aussi également très intéressant et qui fait écho à l'étude de Sibylle, c'est qu'en fait, le taux homme-femme est quasiment équivalent, alors qu'on a un taux homme-femme dans plein de pays européens, dont également la France, qui est très, très différent.
Il y a ce constat. Vous l'avez eu aussi, j'imagine, Alix. Vous vous êtes dit à un moment, ça ne peut pas durer, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui tient les femmes éloignées de leurs finances alors que c'est important? C'est cette volonté de changer et de faire un pas concret dans la bonne direction qui fait que vous avez cofondé The Ladies Bank?
Tout à fait. Donc, je suis arrivée chez O2 en tant que banquier privé. Mm-hmm. Vous savez, un banquier privé, c'est comme un médecin de famille. Donc, il a vocation à écouter les besoins, les préoccupations d'une personne, d'une famille, et l'aider à se projeter dans le temps, à court, moyen et long terme. Et ça, il le fait avec des experts en fiscalité, des experts en gestion financière et avec tout un tas d'outils. Donc ça, c'est vraiment notre rôle qui consiste à accompagner ces personnes dans la durée. Une fois qu'on dit ça, il faut pouvoir voir ces personnes en rendez-vous. Il y a 45% de femmes clientes à la base chez O2. Vous voyez donc qu'il n'y a pas une énorme disparité entre les hommes et les femmes.
Ouais.
Pour autant, on voyait plus de 80% d'hommes en rendez-vous. Elles ne venaient pas ou se faisaient représenter. Et donc nous, ce qu'on a eu envie de faire avec The Ladies Bank, c'était de donner envie aux femmes de prendre soin de leur patrimoine. Et pour ça, on s'est rendu compte qu'il fallait les aider à se projeter et à envisager le sujet d'une manière différente de celle des hommes. Et peut-être, justement, avoir un regard féminin sur la gestion de son patrimoine, qui consiste de façon extrêmement pragmatique. Nous sommes des experts, donc c'est vraiment les accompagner sur le plan fiscal et sur le plan de la gestion dans ce domaine.
Bah alors, ça, c'est super intéressant. Je vais avoir besoin de vos avis à toutes là-dessus. Qu'est-ce que c'est un regard féminin sur le patrimoine, justement? Est-ce qu'on parle, je le disais dans mon lancement, différemment de patrimoine à un homme qu'à une femme? Ou à une femme qu'à un homme? Qui veut se lancer là-dessus? Alix, peut-être.
Alors, tout à fait. Donc, pour mener à bien cette étude, on a commencé à travailler sur ce sujet en 2014, donc chez O2, en mars 2014. Et entre mars 2014 et mars 2016, on a rencontré 200 femmes à qui nous avons posé la question. Donc, il faut savoir qu'à la base, mon métier, c'est de faire de la gestion de fortune. Mais notre idée, c'était de dire aussi toutes les femmes, comment est-ce qu'on pourrait mieux leur parler d'argent et leur donner envie de prendre soin de ce patrimoine. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent, elles étaient en quête de sens. Elles n'avaient pas forcément envie de briller en société en disant « j'ai investi dans tel fonds, j'ai fait telle performance ». Elles disaient « écoute, Annick, je gagne suffisamment bien ma vie, il se trouve que potentiellement j'ai eu un héritage, j'ai vraiment pas de temps ni besoin en fait de m'inscrire dans la durée et de me projeter ». Et pourquoi est-ce qu'on a cherché à leur donner envie de prendre soin de celui-ci? Parce qu'on leur a dit « qu'est-ce qui ferait que vous ayez envie de vous projeter ». Donc on a pris le sujet à l'envers. On arrête de parler de produits financiers, on arrête de parler d'outils. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen à terme. Mais le premier sujet, c'est oui, c'est vrai, je ne voudrais pas être dépendant de mes enfants comme mes parents peuvent être dépendants. Je voudrais peut-être me projeter pour ma retraite, avoir un complément de revenu. Ou alors peut-être je n'ai pas d'enfants, mais je trouve que mon conjoint en a, je me projette avec lui dans la durée, donc je voudrais peut-être envisager de donner une partie de mon argent à celui aux enfants de mes conjoints.
Voilà. C'est des situations de vie, c'est ça en fait.
Exactement.
Il faut être dans le concret.
Et face à ça, ça s'organise. Et à la fin, on arrive effectivement à un profil de gestion, des fonds, des outils, de l'assurance vie, des PEA. Mais tout ça, c'est parce qu'on donne un sens en fait à ce patrimoine et à cette épargne. Et c'est ça qu'il faut rechercher, le sens.
Sibylle, le sens, c'est ça aussi, Vive Média?
C'est très important. Alors, nous, on n'est pas banquière, hein, déjà, ni banquier.
Voilà.
Donc, comme ça, moi, on parle de la vie des gens. Moi, je parle de choses, parce que je pense qu'on ne parle jamais aussi bien de ce qu'on a vécu, de situations très simples. Je n'ose pas regarder mon compte, hein, qui est comme une situation assez commune.
On roule l'angoisse dont vous nous parliez, là.
Je n'ose pas regarder mon compte, je n'ai pas envie de vieillir pauvre. Voilà, donc nous, en fait, on va prendre les flammes là où elles sont, dans leur situation de vie. Et ensuite, on va arriver au travers d'une infographie. C'est un média qui, effectivement,
On a repéré beaucoup de choses aux États-Unis et en Europe du Nord. C'est vrai que les chiffres sont étonnants parce qu'on pense toujours qu'ils sont plus en avant. Mais donc, on laisse une large place à l'infographie. On part de faits. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que les femmes arrivent à se projeter, parce que c'est factuel. Et les hommes aussi, parce que c'est factuel. C'est toujours des économistes qui nous aident à révéler les choses. Lorsqu'on dit que 28% des femmes ont moins de 850 euros par mois au moment du passage à la retraite, ça plaît, ça plaît pas, c'est pas ressenti. Donc, on appelle beaucoup aux économistes et aussi, on se rappelle de l'histoire, parce que c'est vrai qu'on oublie un peu vite que tout compte fait, parce que parfois on peut nous dire, oui, mais alors c'est un sentiment, c'est une impression. Alors attendez, non, en fait, on va parler très clairement. L'infériorité économique des femmes était inscrite dans le Code civil jusqu'en 1965. 13 juillet 65, c'est pas si loin que ça, tout compte fait. Donc on voit, en fait, tout ce qui a été fait depuis, ce qui nous permet quand même de voir ça de manière plutôt positive, mais il est vrai encore tout le travail à faire. Et la sémantique, et c'est vrai que on a une newsletter qui a beaucoup plu, c'est impôts à la source. Est-ce qu'on se fait avoir? Bah oui, en fait, on se fait avoir. Pardon, je suis désolée de le dire, mais
parce
la sémantique.
Qu'on prend le même taux, c'est ça?
Et j'ai mis du temps à comprendre, donc j'ai même pris mes notes en me disant, est-ce que je vais me retromper encore une fois, entre le taux conjugalisé et le taux individualisé. Alors là, vraiment, la sémantique n'aide pas. Et c'est là où je rejoins, il y a un gros travail à faire de compréhension. Ça veut dire quoi, tout compte fait, investir? Ça veut dire quoi, un plan d'épargne? Ça veut dire. Si vous regardez, c'est l'étude le montre. Personne n'ose le dire, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ce qu'on fait. Et c'est vrai que cette sémantique, on le retrouve même dans les politiques publiques, ont besoin d'être sacrément simplifiées, parce que l'impact, là aussi, est important sur la précarisation des femmes. L'INSEE nous le démontre. Le pauvre du couple, en tout cas en France, dans 75%, ce sont les femmes. Et le taux d'imposition des hommes, grâce à ce taux-là, baisse de 13 points, et celui des femmes augmente de 6 points. Donc vous voyez, ça se fait dans, un peu partout, d'où l'importance effectivement, je pense, d'avoir un choc de simplification sur les termes employés en tout cas.
Et ça se retrouve typiquement dans les études quand on pose des questions aux hommes et aux femmes, et notamment post-pandémie. Quelle est votre situation financière aujourd'hui? Comment vous voyez votre épargne? On a quand même une femme sur deux qui aujourd'hui sont inquiètes, contre à peu près un homme sur trois. Donc ça se retrouve tout à fait dans ce que Sybille soulignait. Et je voulais juste revenir sur le point, l'épargne, c'est quoi concrètement? On a regardé chez BlackRock, si on plaçait 10 000 euros il y a 40 ans sur un livret A ou un équivalent d'un livret A, combien on a aujourd'hui? On a à peu près 35 000 euros. On a fait ça pour tout un tas de pays européens. Donc je dis vraiment, c'est un équivalent de livret A. Si vous aviez placé la même somme sur les marchés financiers, donc vraiment de l'épargne financière, très diversifiée, donc comme le soulignait Alix, vraiment un investissement conservateur, profil monde, tout ce qu'il y a de plus classique, vous auriez plus de 550 000 euros aujourd'hui.
C'est
donc
mieux.
On voit bien, c'est-à-dire que les femmes sont plus précaires. Vous aviez parlé tout à l'heure, Sybille, en préambule, de temps partiel. Les femmes sont plus sujettes au temps partiel. Elles ont des carrières plus courtes. Elles gagnent très souvent moins d'argent que les hommes encore aujourd'hui, même s'il y a eu énormément de progrès. Et c'est vrai qu'elles se préparent quand même moins bien également à leur épargne de long terme et leur retraite.
Estelle a dit qu'elles gagnent en moyenne moins d'argent que les hommes. Ça, c'est un thème important au sein de l'entreprise. Margaret, chez L'Oréal, comment on s'assure que, justement, les femmes, et ça va être intéressant de savoir combien il y a de collaboratrices au sein de L'Oréal, et si, justement, leur cas est surveillé avec attention pour qu'on évite un petit peu tous les biais dont on n'a pas encore parlé, mais du plafond de verre, des carrières qui sont plus freinées. Comment vous regardez tout ça chez L'Oréal?
Alors, nous, on le regarde, on l'analyse depuis 20 ans, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de récent. Et donc, ça nous permet de regarder dans l'ensemble de nos pays. Donc, le groupe opère sur à peu près dans 150 pays aujourd'hui. On a plus de 85 000 collaborateurs et collaboratrices. Et ça nous permet vraiment de mesurer, justement, là où sont les freins. Donc, on a mis en place un certain nombre de mesures concrètes, comme analyser les écarts de salaire. Donc, ce qu'on fait depuis 2007 en France, et puis depuis quelques années au niveau international. On a mis en place des outils pour justement éviter, parce que toutes nos équipes étaient certaines et certains de ne pas créer des écarts. Néanmoins, il y en avait. Donc, ça nous a permis vraiment, en le mesurant d'année après année,
déjà équipe par équipe,
de prendre conscience et donc de rectifier. On a 69% de femmes dans nos équipes. Sachant que, évidemment, il y a une répartition, donc les écarts de salaire, on les regarde à poste équivalent à travers l'ensemble de l'entreprise. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire pour mesurer et pour nous aider à avancer plus vite, c'est avec des certifications qui sont faites par un tiers, comme GIS ou EDGE, qui sont des organisations. Donc, nous, on a plus de, on va dire, le siège le fait, mais plus d'une quarantaine d'entités à travers le monde qui travaille avec eux et ensuite c'est certifié par des entités comme Bureau Veritas qui viennent certifier. Donc ça nous permet aussi d'avoir des roadmaps pour voir où les inégalités sont entre les femmes et les hommes.
Est-ce qu'aujourd'hui, le COMEX de L'Oréal, il est à parité ?
Alors, il a beaucoup avancé. C'est probablement la seule instance où on n'est pas arrivé à l'équité de genre. On est à 32% de femmes. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a vraiment plus de la majorité, enfin près de 60% de nos dirigeantes de nos marques internationales sont des femmes, près de 49% de nos expatriés sont des femmes et plus de 55% de nos dirigeants, enfin de nos leaders à travers la société sont des femmes. On a aussi, donc on a une marge de progrès sur le COMEX, c'est clair, 32%, mais c'est vrai que c'est un effort qui est vraiment porté par notre leadership. Donc c'est très différent, c'est pas moi qui dois le porter seule ou avec des femmes.
C'est
l'affaire
de tous.
C'est vraiment l'affaire de tous.
Ouais. Et, parmi les freins, il y en a que vous identifiez dans les progressions de carrière des femmes au sein de L'Oréal, par exemple ?
Bien sûr. Ouais. Un des freins, c'est, je pense que vous l'avez dans le sens où c'est vrai qu'une femme a très souvent, quelle que soit la culture d'origine, quelle que soit la nationalité, quel que soit le poste, parfois cette difficulté d'oser prendre aller pour le poste supérieur. Donc ça, c'est vrai que nous, on a mis en place un certain nombre de formation, d'accompagnement pour permettre la libération de la parole, mais aussi le fait de pouvoir oser négocier.
Oui, c'est ça, parce qu'on parlait de l'argent de poche, mais est-ce que ça se poursuit sur le salaire ? Est-ce que les femmes négocient moins leur salaire que les hommes ?
Tout à fait.
C'est ce qu'on entend souvent.
Oui, et souvent, ça démarre lors du premier job, en fait. Ouais. Et d'où l'écart.
C'est-à-dire que l'écart se creuse dès le départ.
Dès le départ. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Et puis après, il y a d'autres choses comme les congés parentaux auxquels on croit beaucoup. Et c'est très important de permettre aux femmes, mais aussi c'est important de permettre aux hommes et aux coparents de pouvoir partir. Et donc aussi, c'est aujourd'hui vraiment, en tout cas dans notre feuille de route, en tant que responsabilité sociétale, de se dire il faut vraiment qu'on donne l'exemple et qu'on permette à tous et à toutes de trouver cet équilibre. Et donc, c'est pas que là, par exemple, typiquement, devenir maman n'est pas réservé qu'aux mamans.
Les femmes dans l'entreprise, les femmes dans les entreprises de finance, est-ce que si la finance parle pas forcément très bien quand je vous écoute aux femmes, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'hommes dans les métiers de la finance et qu'ils n'ont pas justement bien intégré ça, mesdames ?
Alors, si moi je rebondis sur la partie BlackRock, et je pense que je vais prendre mon cas particulier. Donc, je suis responsable de pays, de région. En Europe continentale, on est 63% de femmes. Donc là, on fait ce qu'on dit et on le fait vraiment, on va jusqu'au bout. Alors, pareil, comme pour L'Oréal, au niveau du board, donc du conseil d'administration, on n'est pas encore arrivé à la parité. Il y a 7 femmes sur 18 membres, mais néanmoins, il y a aussi vraiment une volonté de diversité au sein de ce conseil d'administration. Donc ça, c'est également très important et c'est porté, comme chez L'Oréal, par tous les membres du COMEX, tous les membres du board, absolument partout dans l'entreprise. Il y a également des initiatives, notamment de networking. Donc on a le plus gros network au sein de BlackRock, donc 18 000 personnes, 4 500 personnes inscrites dans... Je vérifie même le chiffre, parce que je crois que c'est même plus c'est 5 500 membres, pardon, qui sont membres de WIN, donc qui est vraiment le network women de BlackRock, et qui se réunit très régulièrement, qui propose du mentoring pour les jeunes femmes et les femmes seniors, qui préparent même à être administratrices au sein de board. Donc il y a une volonté d'accompagner. Et Sybille parlait vraiment en préambule d'éducation, et je pense que ça commence vraiment très très jeune. Nous, on a fait le même constat que Alix et que autour de la table, c'est que, en fait, c'est les jeunes femmes. C'est même, ça commence au niveau de l'argent de poche, mais ça commence quasiment au collège et au lycée.
Alors,
c'est
vrai que on se rajoute une option money management au collège, peut-être.
Voilà, tout à fait. Alors nous, on s'est rendu compte qu'il y avait ce gap qui était très important. On a des initiatives, qu'elles soient européennes ou locales. Donc BlackRock s'est inscrit dans un partenariat avec Inspiring Girls, qui est vraiment cette volonté d'éduquer des jeunes femmes de 16 à 19 ans sur à la fois la partie financière, c'est quoi la finance et pourquoi ça peut être intéressant même en termes de carrière. C'est pas seulement placer son argent, ça peut être aussi vraiment une carrière et un avenir. Une autre initiative vraiment beaucoup plus franco-française, c'est Startup Kids. Et là, c'est encore une cohorte plus jeune, puisque là, c'est du 12-18 ans. Et on mixe finance et tech, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que alors, c'est aussi des métiers où il y a très peu de femmes, une présence de femmes extrêmement faible, et nous, on cherche justement à faire évoluer les comportements, et en fait il faut aller vraiment chercher les jeunes femmes le plus tôt possible dans les écoles pour leur expliquer les différents métiers, pourquoi c'est intéressant, et je pense que justement c'est aussi une manière d'expliquer à quel point c'est important cette indépendance financière. Et quand on préparait ensemble, Laurent, je vous avais donné une expérience personnelle. Ouais. Moi j'ai été très choquée quand mes parents ont divorcé, ma maman s'est retrouvée à 40 ans étant totalement démunie, dépendante financièrement jusqu'à son numéro de sécurité sociale qui n'était pas le sien mais qui était celui de mon père. Ça m'a vraiment beaucoup choquée et c'est vrai que j'ai toujours mis un point d'orgue dans ma carrière et dans ma vie de femme.
Ça ne doit plus arriver.
Même si je suis mariée depuis 20 ans, mais d'être indépendante financièrement. Ouais. Et je pense que quand on parle à des jeunes filles, des jeunes femmes, c'est très important aussi pour nous toutes de passer ce message, c'est au-delà des carrières qu'elles vont faire, de rester très indépendantes financièrement.
Vous me tendez une perche, Estelle. Qui gère le budget à la maison, mesdames? Alix, chez vous, par exemple?
Moi, c'est à parité. De toute façon,
c'est à parité.
Plutôt l'échange, la discussion et le faire ensemble.
La déclaration d'impôt, on l'a fait à quatre mains.
Alors, en pragmatique, j'ai épousé un fiscaliste. Banquier, un fiscaliste.
Mais on est d'accord.
Mais sinon, la même chose, par principe, c'est ensemble, c'est tenir un Excel de tout ce qu'on a ou des contacts. C'est justement, c'est envisager les choses avec plus de sérénité, pouvoir se projeter. Il y a plein de petites tips à faire pour pouvoir s'organiser au mieux au quotidien. Mais justement, quand on parle de budget, c'est le poser ensemble. Faire un Excel, un Word, ce que vous voulez, mais réunir les informations en commun et puis se projeter sur un ou deux ans. Et comme ça, s'il y a un problème, ensemble, on pourra le résoudre. Et souvent, je parle bien sûr, il y a des séparations, des divorces, mais on peut aussi perdre son conjoint.
Bien sûr.
Et là, se retrouver à dire, il faut que je contacte les banquiers, je ne sais pas, les assurances.
Est-ce qu'il y a un contrat d'assurance
vie, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça, il faut pouvoir retrouver les éléments.
Chez vous, madame, qui tient les cordons de la bourse?
Qui tient? Par la force des choses. Mais c'est vrai que j'ai dû apprendre rapidement. Ouais. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est aussi à l'origine de ce média. Hein. Mais je pense que c'est une urgente nécessité parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que ça va toucher toutes les femmes à un moment ou à un autre. D'abord parce qu'elles ont une espérance de vie qui est plus longue que celle des hommes. Hein, donc, voilà. Et je pense que ça nous permet d'acquérir une plus grande liberté et sérénité. Ouais. Dans la vie que de pouvoir maîtriser au-delà, effectivement, de la sphère domestique. Donc, nous, dans le média Vive, il y avait cette première strate qui était très importante, qui était de révéler les choses simplement et que ça intéresse les femmes et qu'elles le lisent, déjà, ce qui est déjà une première brique importante. D'autre part, qu'on agrège des hommes, parce que je pense qu'elles n'y arriveront pas tant qu'il n'y aura pas aussi dans leur cellule et dans leur sphère à la fois professionnelle ou personnelle des hommes pour les aider à avancer sur ces sujets-là. Et ensuite, ce qui était pour nous très important et qu'on est en train de mettre en place, c'est la mise en action. Parce que le tout, c'est pas de...
Voilà,
c'est une fois que vous avez ça, qu'est-ce que j'en fais ?
Mais on va en parler, effectivement.
Donc, il y a un point important, c'est d'une part, pour la mise en action, on met en place des forums. Oui. Donc, effectivement, on a commencé assez simplement à Paris, mais on a pour vocation d'aller en région très vite, parce que là aussi, vraiment le sujet est totalement national, et il y a un besoin que d'appréhender sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que nous allons créer des vidéos de 5 minutes, très efficaces, très formatrices. Alors, je vois effectivement Margaret et Estelle qui regardent. Et Margaret, mais les groupes qui ont des positions, notamment en Amérique du Nord, savent que c'est quelque chose qui se répand aujourd'hui très vite dans les entreprises, parce que je pense que
À la fois, il faut que les personnes se forment par elles-mêmes, et je pense aussi qu'il revient en quelque sorte aux entreprises que de proposer ces formations. Parce que vous le disiez tout à l'heure, à quel moment nous formons-nous à l'argent ? Il n'y a pas tellement de lieu, en fait, tout compte fait.
Donc, même je pense garçon, que... pour le coup.
C'est pour ça que je le dis, les vidéos ont vocation à être vraiment anecdotiques. Mmh. C'est pour tout, c'est qu'à quel moment, et en fait, c'est vrai que l'entreprise est un lieu parfait de formation. C'est vrai qu'elle prend beaucoup de rôles, de responsabilités, de place. Mais assez paradoxalement, c'est encore un sujet qui n'est pas évoqué, en tout cas, dans les parcours de formation. Donc, qui mieux que, j'allais dire, les entreprises pour le faire, les banques, qui ont à la fois un rôle vis-à-vis, pardon, je lance,
c'est
mais vis-à-vis
de
leurs employés et de leurs clients, j'ai envie de dire, et qui ont quand même un vivier extrêmement fort de ce côté-là. On a collectivement une responsabilité vis-à-vis de ce sujet. Et je voulais rebondir sur ce que disait effectivement Margaret. C'est vrai qu'il va être très compliqué de gérer les inégalités au travail si celles-ci ne sont pas opérées aussi à la maison. Oui. Puisqu'il y a quand même, et on le voit de plus en plus dans le rapport au travail que nous devons opérer en tant que dirigeants et pilotage en entreprise, il devient urgent effectivement que
les... On l'a vu dans la crise Covid, ça a été encore plus mis en lumière que tout le monde était à la maison, mais tout le monde ne faisait pas les mêmes choses à la maison. Le mari était plutôt sur son boulot en télétravail et puis sa compagne gérait un peu tout le reste.
Oui, mais l'entreprise ne pourra pas gérer ça seule si
que ça
effectivement
a juste
la sphère aussi familiale n'est pas appréhendée différemment.
Ce qui est intéressant, c'est que sur les entreprises qui ont, par exemple, pour les 10 banques, nous, on a une initiative chez ODEBHF qui est en parallèle, c'est un engagement en parallèle de nos métiers, toutes les personnes qui travaillent pour les 10 banques. Et donc, on a été beaucoup sollicités par des entreprises pour aller former généralement plutôt leur cercle de femmes, je dois dire, plutôt que des cercles d'hommes. Et de la même manière, on a été énormément sollicités par des universités pour aller former leurs étudiants à s'organiser, à savoir commencer à budgéter et puis à avoir quelques clés pour s'organiser, pour gérer leur patrimoine. Et il est capital, justement, de commencer à inculquer un petit peu ces règles de base qui permettent à tout à chacun, après, de s'organiser dans son quotidien, soit avec tous les experts dont on a à disposition, dans les banques de taille, etc., soit avec des spécialistes en gestion financière.
Donc, c'est vrai que vous aviez déjà fait un travail absolument formidable. Moi, je reste assez convaincue qu'il faut qu'on embarque via les entreprises, justement, les hommes, parce que sinon, nous, ce qui remonte beaucoup du média aujourd'hui, c'est que elles ont du mal, les femmes qui nous suivent ont quand même encore du mal à en parler assez librement avec leurs conjoints, de façon vraiment agnostique, tout milieu social confondu, il y a une difficulté à en parler. Donc en fait, je pense que, je pars du principe que nul ne souhaite faire le mal, mais en fait, par méconnaissance aussi des hommes sur ces sujets-là, c'est une plus grande difficulté pour elles, une manière de les aider.
C'est vrai que l'entreprise peut être aussi une opportunité de... Par exemple, nous, on avait lancé il y a quelques années une collaboration en France, avec les Glorieuses, pour avoir une lettre, comme un blog, en fait, pas que pour le réalien, mais pour tout le monde, sur les femmes et l'argent. Et c'était pour aussi donner la parole à des autrices et des auteurs à travers le monde, avec un angle très économique, mais sur les femmes et l'argent, pour essayer de créer un dialogue. Et donc on a eu, c'était très intéressant, des lecteurs et des lectrices en interne de l'ensemble des pays. Donc ça, on l'a fait en anglais pour pouvoir dépasser les frontières. Pour aussi, c'est un lieu d'échange. C'est-à-dire que nous, on offre beaucoup de formations sur les biens conscients, sur le sexisme au quotidien, toutes ces choses qui peuvent aussi permettre d'avoir un échange et qui ne sont pas réservées aux femmes, qui sont réservées à tous, en fait. Et ça permet, après, d'avoir des discussions, notamment avec nos équipes, par exemple, à la communication financière, pour essayer, quand on a lancé un plan d'actionnariat salarial pour la troisième fois cette année, on l'avait lancé en 2018 et 2020, et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui souscrivent, mais on n'est pas encore à équité. Donc il y a aussi tout un travail, là on n'a pas encore tous les chiffres finalisés, mais la proportion de femmes éligibles souscrivent moins. Donc on a encore un effort à faire c'est des discussions qui se font en effet en cercle plus restreint et pas nécessairement via une formation obligatoire, mais justement de permettre d'éduquer, de sensibiliser et de partager via aussi, on croit beaucoup dans le mentoring, donc c'est aussi des choses qui peuvent passer, des messages qui peuvent passer ou en tout cas des échanges qui peuvent être constructifs aussi.
Et je crois qu'Estelle parlait des initiatives de BlackRock, mais il y a une initiative intéressante chez L'Oréal, c'est Bold, le fonds qui peut soutenir des jeunes créatrices d'entreprises, c'est
absolument. Ça ? Absolument. Alors, c'est un... Bold, donc en fait, c'est un fonds de capital risque. Ouais. Et là, l'idée, c'était de. Donc, on l'a fait là, au printemps, en mai du moins 2020, on l'a lancé le Bold Female Founders, vraiment destiné à des femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et les startups féminines. Donc, c'est vraiment quelque chose où le groupe a voulu mettre. A vraiment voulu poser, ou en tout cas. Oser vraiment accentuer vraiment ça parce que, en effet, malheureusement, les femmes, les start-up lancées, initiées, fondées par des femmes restent encore beaucoup, beaucoup trop petites. Donc là, c'est quelque chose qui est complètement international. La première tranche était quand même un engagement fort de 25 millions d'euros, donc c'était quand même quelque chose de vraiment important. Et vraiment, ça a été formidable. C'est une grande fierté. Oui, oui, tout à fait.
Je crois que vous voulez ajouter quelque chose.
On est en train de lancer avec les Nations Unies, donc le UN Women. Des partenariats dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire accompagner les femmes dans le private equity, c'est-à-dire des lancements d'entreprises, des entreprises qui sont déjà arrivées à un certain stade de développement avec effectivement UN Women. Mm-hmm. Donc c'est vraiment dans le cadre comment on continue cette pépinière de talents. Ouais. Moi, je voulais aussi juste rebondir sur ce que Sybille a dit parce que c'est vrai que l'entreprise a un rôle à jouer, mais je pense que, alors nous, acteurs, sociétés de gestion qui gérons l'argent pour nos clients, hein, puisque nous ne sommes pas une banque, BlackRock est une société de gestion.
Voilà. Soyons précis sur les termes.
Oui, tout à fait. On a déjà des initiatives telles que celle avec Boursorama, avec des petites vidéos de l'éducationnel, qui, je pense, sont également des bons outils, des bons terreaux pour expliquer la simplicité des outils, comme un outil comme un ETF, ultra accessible, super simple. À partir de 25 euros, on peut commencer à se créer un petit patrimoine, mais c'est vraiment à force d'investir régulièrement qu'on y arrive sur le long terme.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va déboucher finalement sur la dernière partie. On a fait le constat de cette situation, on a vu un petit peu les freins, et puis maintenant on a envie de dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait là concrètement pour les femmes ou les hommes, jeunes ou moins jeunes, qui nous regardent déjà? Un, comment on peut s'y prendre? Est-ce qu'il y a des recettes, des choses simples à mettre en action? C'était un de vos mots, Sybille. Et puis surtout, est-ce qu'il y a des situations différentes selon les âges aussi, selon les époques? Alors, deux questions d'une, peut-être Alice, déjà, moi j'ai envie d'entendre la banquière, là pour le coup, m'expliquer, alors voilà, j'arrive en consultation, qu'est-ce que, je suis une femme, excusez-moi, un petit effort d'imagination. Qu'est-ce que vous faites là maintenant pour que j'investisse, je prenne en main mon patrimoine?
Alors, c'est une très bonne chose parce que souvent on nous dit qu'est-ce que je fais pour investir? Avant d'investir, on va analyser ce que vous avez déjà. Ouais. On va faire un audit, on va poser les choses. Et donc, surtout, il est urgent de ne pas se précipiter dans un investissement sans donner du sens à ça. Donc, la première chose, c'est je fais un audit personnel et je fais un audit si je suis en couple. Dans mon couple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi bien, je vais analyser mon régime matrimonial. Quelles sont les incidences de celui-ci si l'un des deux décède ou si nous nous séparons? C'est indispensable de le faire. Et on se rend compte que 90% des gens ne connaissent pas l'incidence de leur régime matrimonial si celui-ci est dissous. Donc ça, c'est vraiment la première clé avant pour gagner en indépendance ou se gagner en légèreté.
Oui,
c'est pouvoir dire, bon, bah, très bien, j'envisage l'avenir avec sérénité. Oui. Parce que quand on sait, quand on a bien préparé et organisé avec un contrat de mariage, la porte est ouverte. Oui. Donc on réagit très librement. Et si on doit passer par la porte pour mille et une raisons, eh bien, on sait exactement comment ça va se dérouler. Donc ça, c'est la première clé. Enfin, la seconde étape, c'est qu'une fois qu'on a fait cette audit, ah oui, je me permets de préciser qu'il y a un petit cas particulier aussi pour tout ce qui est entrepreneur. Mmh. De la même manière qu'on a un contrat de mariage, il y a un contrat quand on est entrepreneur, quand on monte une boîte avec quelqu'un. Mmh. Eh bien, c'est la même chose. Il faut y accorder autant d'importance. Hein. Un pacte d'actionnaire, il faut le préparer. Mmh. Il faut anticiper la sortie. Pourquoi? Parce que de tous les cas, le jour venu, eh bien, ce sera toujours utile. Ouais. Donc ça, c'est la première clé. Ensuite, on se projette. Mmh. Donc une fois qu'on a analysé, qu'on a discuté, on se projette. On se projette seul ou à deux. Mais même si on souhaite construire son patrimoine chacun de son côté, il faut le faire en connaissance de cause, exactement, et pour que ça ait du sens. Il faut que chacun puisse avoir de côté, effectivement, chacun ou ensemble. Hein. Moi, je suis très... de quoi financer, ça va être les vacances dans un premier temps, changer d'appartement, et puis à plus long terme, la retraite. Et en fonction de chacun de ces projets de vie, on va réfléchir combien est-ce combien je peux épargner déjà. Donc épargner, c'est juste mettre de côté entre la différence entre ce qu'on gagne et tout ce qu'on va dépenser. Donc le delta entre les deux, la différence, va servir pour les loisirs, pour changer d'appartement ou plus tard pour la retraite. Et en fonction de ça, où est-ce que j'alloue en fait dans chacun de ces projets. Et en fonction de la durée, donc l'horizon de ces projets, là, on va commencer à d'abord choisir une enveloppe en fonction de la fiscalité, puis à investir. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va anticiper les choses. Et donc, le dernier mot, c'est qu'on va pouvoir profiter. Parce qu'une fois qu'on a bien organisé ça, on va pouvoir profiter. Et ce n'est pas parce qu'on l'a organisé que ça ne peut pas évoluer. Donc, c'est ça la clé.
Mais quand je vous entends, en fait, il y a vraiment, et pour le coup, quelque chose qui n'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'il faut commencer à en parler, quoi. C'est-à-dire mettre un petit peu carte sur table et commencer à dire, bon, ben voilà, finalement, parce que je pense qu'à commencer par le contrat de mariage, on le signe pour mieux l'oublier par la suite et effectivement, sans comprendre vraiment les conséquences. Vive, c'est ça aussi l'objectif. C'est du concret, du plan d'action, on passe à l'action. Alors, comment on passe à l'action avec Vive ?
Nous, on a décidé de le faire sous différents formats. Je vous invite déjà à regarder vivemedia.fr. Là, je vous le dis d'autant plus qu'à nos éditeurs, est totalement gratuite. Voilà. Non, mais elle est gratuite.
Ah,
bon,
bah
bon. Donc, on fait les choses correctement. Donc, la newsletter, elle permet exactement, comme le souligne Alix, de partir de situations de vie. Et je pense que c'est très important. C'est le seul moyen pour les femmes et pour les hommes aussi de se projeter par rapport à tout ce qui a été dit. Ensuite, on lance, là, dans 15 jours, un podcast qui a le mérite d'être assez éclairant, qui s'appelle Osons l'oseille. Donc il y a 12 épisodes qui viennent en fait remettre ces sujets-là par rapport à des situations de vie, mais aussi par rapport à de l'histoire, par rapport à des personnalités qui vont expliquer en fait nos freins. Parce qu'en fait, on ne comprend jamais aussi bien les choses que lorsqu'on les aborde par les freins. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas ? Voilà, et on en est très fiers. On fait ça avec Louis Média, qui est une formidable entreprise. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup aussi échangé avec Rebecca Absalem, des Glorieuses qu'on connaît bien. Voilà, sur un sujet très pragmatiquement, Osons l'oseille. Donc, effectivement, c'est un parcours de formation. Et à la rentrée, nous travaillons donc sur ces vidéos de formation qui ont la particularité à la fois de pouvoir être pluguées dans les outils intranet des entreprises de manière extrêmement facile. Et d'autre part, ensuite, de proposer des parcours de formation individualisés parce que je pense que c'est une grande nécessité à un moment d'arriver sur un parcours qui est le sien et de pouvoir échanger effectivement sur toutes les situations que Alix soulignait. Après, je pense, si je rembobine comme un tout petit peu, parce que je parle aussi de Bayard, j'allais dire du point de vue de Bayard, on l'a souligné, Estelle et Elisabeth aussi en parlaient, je pense qu'il y a une grosse question en France de l'orientation, j'allais dire, professionnelle, notamment des jeunes femmes. Je relisais l'orientation scolaire est très importante. Je relisais les chiffres qui sont tombés sur les filières scientifiques.
Pas assez d'ingénieurs, on nous dit.
28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Ouais. 25 dans les filières du numérique. On doit dire qu'à la base, déjà, on part quand même sur une base qui est quand même petite. Donc, on a assez peu de chances de les voir effectivement monter les entreprises derrière. Il y a une urgente nécessité de revaloriser les métiers dits féminisés, notamment tous les métiers de service, qui sont les filières qui vont être en croissance sur les années à venir. Donc, là, il y a aussi une attention toute particulière à apporter. Et puis, il y a quand même cette question, effectivement, des familles monoparentales qui incombe à 85% pour les femmes. Et donc là, on a un vrai sujet. Et je pense que de partir de la situation de la retraite, qui est de dire, en fait, au bout du bout, voilà ce qui va se passer, et rembobiner, en fait, l'histoire, en repassant par les parcours, permet aux femmes de pouvoir s'en saisir assez... j'allais dire, j'ai une grande confiance pour qu'elles le fassent. Sachant que je rappelle que dans l'étude, elles gèrent dans la sphère domestique. Oui. C'est juste les accompagner à gérer sur une dimension plus élargie que ce qu'elles font aujourd'hui.
Si je dis... Je suis en minorité, je mesure les risques que je prends. Ouais, mais les femmes, elles disent toujours, moi les finances, ça m'intéresse pas. C'est vrai, c'est faux, c'est un préjugé.
Non, je pense pas que ça ne m'intéresse pas.
Il y a une crainte, en fait, de la partie financière. Il y a une vraie crainte, et c'est pour ça que Sybille a commencé vraiment sur l'éducation au tout début de cette table ronde, et j'aime beaucoup cette idée-là, parce que je pense qu'il faut casser cette image que Dignity l'argent, et j'aime bien le titre des formations Osons l'oser, parce que effectivement il faut pouvoir parler d'argent. Et en repartant effectivement de l'horizon loin qui est la retraite, alors en France, vous parliez que c'est à peu près 30% d'écart entre les hommes et les femmes. 39 avec ouais. Réversion,
c'est 32%.
Voilà. Nous, on a regardé en Allemagne, même aux Pays-Bas, où on peut penser que ce sont des pays qui sont relativement bien avancés. Bien non.
Non.
C'est plus de 40% d'écart encore entre les hommes et les femmes. Et donc, en partant de ce point loin et d'expliquer que plus on le prend tôt pour gérer, donc comme l'a bien souligné Alix, il faut regarder son portefeuille, il faut analyser sa situation patrimoniale depuis le départ et faire son étude proprement, et c'est vraiment individualisé. Nous, ce qu'on a vu dans nos différentes études, c'est que les femmes, finalement, sont beaucoup plus demandeuses de conseils. Deux tiers d'entre elles, en Europe, demandent conseil. Alors apparemment, du côté des plus fortunés, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, globalement, quand on regarde à l'échelle européenne, elles sont très nombreuses, à l'inverse des hommes, qui sont moins de 1 sur 2 à demander du conseil. Là, on a vraiment deux tiers des femmes qui demandent conseil. Donc clairement...
Margaret a tout à fait raison, parce qu'en fait, il y a un sujet mais qui est tout à fait naturel, parce que en tout cas, je pense que... Donc, quand on a fait l'étude, il y a cette notion qui est encore très forte dans les familles de la répartition des tâches. Ça, c'est ce qu'il faut casser tout de suite, là. Donc, je répartis les tâches. Donc, les hommes font quelque chose, les femmes font l'autre. Et il s'avère qu'elles sont cantonnées dans la sphère domestique. Elles-mêmes ne le remettent pas en question aussi, j'ai envie de dire. Mais cette notion de répartition des tâches a fait aussi que le sujet est peu ou prou pas suffisamment abordé.
Mais au-delà, si je peux me permettre, des répartitions, donc tu as les stéréotypes, ça peu importe la culture, c'est assez intéressant parce qu'on le retrouve, vraiment partout. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que les femmes, nous on l'observe en entreprise, dès l'entrée, dès le poste le plus junior, on voit une différence où la candidate va donc exprimer sa joie, son intérêt et accepter. Quand très souvent, le candidat va faire la même chose, mais va immédiatement négocier le salaire. C'est-à-dire, non, mais ça, c'est très. Et c'est pas qu'en France. Donc, l'écart, ce que je disais au début, démarre dès ce moment-là. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Et donc, il faut libérer la parole et permettre à nos collaboratrices d'en parler. Alors après, il y a la culture, il y a l'histoire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut aussi casser dans certains pays où c'est un peu plus complexe. Et donc, ce n'est pas une solution qui permet. Mais une des choses, c'est en effet l'échange entre pairs ou entre justement personnes plus seniors dans l'entreprise qui justement, et ça je te regarde parce qu'on fait quelque chose sur les plus de 50 ans, où c'est très important justement de pouvoir mettre en couple des femmes et des hommes et pour permettre aux femmes de justement oser en parler et oser négocier pour pouvoir se projeter dans un poste plus intéressant, plus qualifié, voilà. Oser être ambitieuse.
Bien sûr, Estelle, bien sûr.
Parce que, alors, c'était chez un autre employeur que BlackRock. BlackRock fait très bien les choses, mais où j'ai souligné, donc j'ai plus de 50 ans, vous le saurez par ce biais-là, mais où j'ai souligné, mince alors, quand même, l'entreprise est mal organisée si quelqu'un comme moi est obligé d'attendre d'avoir 50 ans pour avoir du mentoring et du coaching. Et je disais, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les jeunes générations, les jeunes femmes de 30 ans, de 40 ans, soient accompagnées, qu'on les amène justement à des postes de responsabilité. Je ne dis pas pour toutes, parce que toutes n'ont pas l'ambition et les envies, mais pour celles qui ont envie, qu'on les accompagne, qu'on les amène plus haut et n'attendons pas qu'elles aient 50 ans pour le faire.
Est-ce qu'il y a aussi BlackRock, on l'a dit, société de gestion, très grosse société de gestion, est-ce qu'il y a des initiatives concrètes, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une jeune femme, jeune ou moins jeune, qui a envie de s'y mettre, concrètement?
Alors, dans le cadre professionnel ou...
De son patrimoine, la gestion de son patrimoine.
Moi, j'ai bien aimé ce que Alix soulignait, donc ça part toujours quand même déjà d'une analyse de sa situation patrimoniale, bien évidemment. Faire appel à un conseiller également, ou une plateforme qui est très bien faite comme Boursorama, évidemment. Bien évidemment, évidemment, avec tout un tas de vidéos, tutoriels pour accéder à des investissements simplifiés, simples, comme justement je le soulignais tout à l'heure, hein, des ETF, on peut s'exposer à n'importe quel indice dans le monde du thématique, du géographique et autres, à partir de 25 euros, donc c'est des choses vraiment très simples, notamment au travers de BlackRock iShares, et on a un certain nombre de vidéos qui expliquent comment faire, et qui expliquent justement que c'est simple, c'est transparent, c'est facile d'accès, et ça ne demande pas d'avoir une grande fortune pour commencer.
On arrive presque au terme de cette table ronde. Vous parliez d'une situation très personnelle. Moi, ça tombe bien, je suis père de deux filles. Alors, pour le coup, vous allez me donner des conseils. Qu'est-ce que le père de deux filles que je suis, 10 et 14 ans, 10 ans bientôt, doit leur dire pour l'entreprise et justement pour leur vie d'initiative, c'est quoi les bons réflexes qu'un père peut donner à ses filles?
Négocier son argent.
Ben moi, c'est équivalent, j'ai deux filles, j'ai pas trop de problèmes. Mais ça, c'est là-dessus, elles sont très fortes.
Par rapport aux copains,
aux copains. Pas mal. Donc, négocier l'argent de poche, ok. Civil.
Moi, je dirais en parler et faire très attention aux arbitrages que les femmes font, parce qu'il y a un sujet dont on a peu parlé, mais qui me tient aussi particulièrement à cœur, et c'est les plus de 50 ans qui m'y font penser, c'est que le premier arbitrage qu'elles vont faire, c'est sur leur temps de travail au moment des enfants.
Oui, ça, c'est important.
Ouais, et ce qui est important, mais les Américains nous apprennent une notion très importante, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup aujourd'hui, il y a un arbitrage entre le breadwinning et le caregiving. Mais dans le caregiving, il y a aussi la question des aidants, et je rappelle qu'en France, 72% des aidants sont des aidantes. Mmh. Et c'est là aussi où il y a un deuxième point très important de précarisation pour les femmes dans leur travail. C'est au moment où, effectivement, elles doivent s'occuper d'un parent. Donc, parlez à votre fille de l'argent. Déjà, à mon avis, ça la libérera, que ce soit effectivement son père qui le fasse.
Alix, un conseil pour les jeunes filles de maintenant qui seront les femmes de demain?
Tout à fait. Donc, mon point, c'est aussi déjà de dire quand tu gagnes de l'argent de poche ou quand tu as ton premier boulot, qu'est-ce que tu veux faire de cet argent? Et je pense que, dans les interviews, on me dit, mais alors, il faut mettre de côté au cas où la machine à laver se casse, au cas où. Je dis, mais même moi, j'ai pas envie de mettre de côté pour ça. Enfin, on verra bien.
C'est pas super motivant.
En revanche, me dire pour les vacances, pour marcher cette chose, pour avancer comme ça, pour mettre de côté, parce que dans 2 ans, je voudrais partir faire Erasmus. Et je voudrais pouvoir voyager pendant ces 2 années, ça aide à se projeter et donc rendre les choses plus concrètes et plus agréables. Parce qu'il faut savoir aussi profiter de cet argent. Voilà. Oui. Donc pour en profiter, il faut le vivre pleinement. Donc ça, c'est mon premier point. Et d'ailleurs, quand vraiment, Sybille, vous parliez aussi de se projeter un peu à plus long terme, il y a évidemment tous ceux qui ont une double carrière, mais il y a ceux qui ont dû avoir une moindre carrière d'un côté et donc qui, même si elle essaye de mettre de côté pour sa carrière, le décalage est juste incroyable. Ouais. Alors parfois, il y a un patrimoine qui vient compenser ça, mais pour autant, il faut que ce soit très clair. Et puis peut-être que ce patrimoine n'est pas fait pour être dépensé justement au quotidien, mais plutôt se projeter dans un avenir. Et donc, c'est catégoriquement important de mettre ça au clair. Et donc, pour ça, les enfants aussi, il faut être transparent là-dessus. Il faut dire que nous-mêmes, nous, parents, on parle ensemble et donc peut-être maman ne travaille pas depuis quelques temps parce qu'elle a voulu prendre soin de vous, mais ensemble, on travaille pour notre retraite. On travaille pour acheter une maison secondaire. Donc on se projette ensemble, on en discute ensemble. Et ça donne un peu les clés au quotidien aussi, aux uns et aux autres, de dire il n'y a pas quelqu'un qui est un peu laissé pour compte. Non. Et qui se donne du mal avec le pauvre argent qu'elle gagne pour aller nous acheter des vêtements. Non, on fait ça ensemble. On construit ensemble.
Estelle, votre mot de la fin à vous.
Alors, j'aime beaucoup l'esprit très positif sur l'argent, parce que je pense que justement, il faut dédramatiser l'argent. Et là, je vais finir juste sur mon propre comportement quand j'étais jeune. À 11 ans, je me suis abonnée à des magazines financiers.
Donc, quand même.
Voilà, parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre d'où venait l'argent, comment l'économie fonctionnait, la macroéconomie. Et donc, j'aurais tendance à dire.
On abonne des petites filles aux Échos.
Voilà. Ben voilà. Par exemple.
Et on continue à faire des maths.
Et on continue à faire des maths, on est bien d'accord.
Oui.
même quand papa est nul en maths. Bon, ben voilà, j'espère en tout cas qu'avec vous, mesdames, on est passé justement de l'angoisse des débuts à la liberté. Et moi, je veux retenir effectivement cette belle formule de Tanix, que l'argent, c'est aussi là pour profiter, voilà, quand on est homme ou femme, et en tout cas qu'on a pu lever des freins grâce à cette table ronde. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci. Merci.
Voilà, c'est fini pour cette conférence, mais bien sûr, le Bourse Live continue. Restez avec nous pour la suite du programme.